BFM Business, midi, leur H. L'invité.
Ils sont souvent jeunes, étudiants, parfois ce sont les saisonniers, hein, ceux pour qui les mois de juillet et août sont d'ordinaire en France synonymes de forte activité dans la restauration, bien sûr, dans l'hôtellerie, globalement dans les loisirs. Mais cette année, ils font les frais de la crise. Bonjour Thierry Grégoire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président de l'UMIH Saisonnier, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. 500 000 emplois saisonniers ont disparu au premier semestre. Est-ce que cette crise de l'emploi saisonnier peut ralentir pendant l'été ?
Alors déjà, sur un million d'actifs, il y a 750 000 salariés, dont 300 000 saisonniers d'été, 100 000 l'hiver. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre de saisonniers qui n'ont pas pu, à la suite de la période de confinement, donc au 17 mars, reprendre leur contrat de travail. Donc ceux-là qui avaient signé des contrats de travail, ben, sont dans le dispositif d'assurance chômage, et puis les autres étaient en activité partielle. Donc oui, il y a une déperdition. À partir du moment où on a eu chaque semaine qui avançait, pas de date de réouverture. Maintenant, la date, c'est le 2 juin. On est dans la saison pour un certain nombre d'entreprises, que ce soit en station de littoral ou dans la ruralité et de montagne, où il y a beaucoup d'activités.
Le 2 juin.
Mais le 2 juin,
oui.
On a eu cette ouverture. C'est vrai qu'on a une déperdition et qu'on n'a pas pu recruter tous les saisonniers qu'on a besoin parce que absence de perspective de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un sujet. Donc, c'est beaucoup de saisonniers qui ont effectivement, vous l'avez très justement dit, qui ont moins de 30 ans. C'est beaucoup aussi d'étudiants, hein, qui font la saison d'été pour préparer leur rentrée universitaire. Donc, ça va faire du budget en moins, un peu de la précarisation. Donc, aujourd'hui, on a... Alors, inquiet, oui, bien sûr, on est dans un tourbillon qui fait que les perspectives sont extrêmement difficiles, compliquées, et on navigue à vue dans nos perspectives d'activité. Donc, on n'a pas pu recruter les 300 000 saisonniers. En tout cas, on a au moins 50% d'entre eux qui sont soit dans l'activité partielle, puisqu'ils avaient déjà signé leur contrat, ou sont dans l'assurance chômage. C'est pour ça qu'on a demandé une prolongation de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre dans un premier temps.
On va revenir dans un instant sur ces aides qui continuent d'exister, bien sûr, aussi notamment pour les saisonniers. Donc, il faut intégrer les saisonniers là totalement à la reprise économique. Un été sans saisonnier, c'est un été sans hôtel, sans restaurant, sans café, sans lieu de loisir, en tout cas, sans les capacités d'accueil qu'ils peuvent avoir lorsqu'il y a un nombre normal de saisonniers, j'ai envie de dire.
Mais le plan de relance, il devrait intégrer tout le monde, saisonnier compris. À partir du moment où on n'a pas la clientèle internationale, la clientèle hors Europe. On n'a pas de mobilité au niveau de l'Europe. On n'a que de la clientèle nationale, donc domestique. Il est évident qu'on n'a pas pu embaucher tous les contrats de travail. Ça veut dire qu'il faut d'abord protéger l'entreprise, parce que ces contrats de travail sont attachés à l'entreprise. Donc, c'est-à-dire protéger toutes les entreprises. Ça veut dire mettre en place l'activité partielle, certes, jusqu'au 31 décembre, mais la compléter avec l'activité partielle longue durée, avec des dispositifs de formation, et même aller plus loin. On a bien, pour la République, a bien étendu la protection des intermittents du spectacle jusqu'au 31 août 2021. Il faudra probablement aller au moins jusqu'au 31 mars pour pouvoir faire en sorte de conserver tout ce personnel que nos salariés qualifiés pour ne pas les voir rester au chômage et leur donner la possibilité de se former le temps qu'il y ait moins d'activité. Donc tout ça, c'est des dispositifs qui doivent être absolument intégrés dans le plan de relance. Protéger l'entreprise, c'est protéger les salariés. À partir du moment où on a moins d'activité, il est évident qu'on est obligé, en tant que chef d'adapter la jauge, d'avoir moins de salariés saisonniers.
Et donc intérim, CDD, tout le monde est concerné?
On a très peu d'intérim dans notre secteur. C'est exclusivement des salariés saisonniers et quelques contrats dits d'extra pour 10% d'entre eux. Mais 65% de nos contrats sont en CDI. Donc c'est d'abord protéger tous les salariés, quelle que soit la nature du contrat.
La plateforme de recrutement CAPA enregistre cette année davantage d'inscriptions d'étudiants, peut-être aussi parce que avec la crise épidémique, il n'y a pas eu le bac, donc il n'y a pas eu d'épreuve, donc on a eu plus de temps pour chercher du travail, essayer de se faire de l'argent. Donc cette année, en plus, encore plus de demandes, probablement, et moins d'offres.
Oui, c'est vrai que vous le dites justement, les gens ont eu le temps, la disponibilité pour pouvoir chercher. Alors, ça peut être aussi assez paradoxal. Beaucoup de nos entreprises, nous avons aussi des hôtels-restaurants qui sont fermés encore aujourd'hui, qui ne dépendent pas de l'activité tourisme-loisir. Je pense à toutes celles et tous ceux. Et à Paris, 80% des hôtels sont fermés, dépendent du tourisme d'affaires. Donc, ceux-là sont complètement à l'arrêt. Mais c'est vrai que nous avons aussi des besoins, et certains territoires, on n'arrive pas à trouver de salariés saisonniers parce que, certains préfèrent aussi, il y a la peur de reprendre un contrat de travail, de dire est-ce que je vais perdre mes droits au chômage. Donc tout ça, je pense qu'il y a aussi une parole politique très forte qui doit rassurer pour que l'emploi soit absolument préservé. L'emploi, c'est l'entreprise et le salarié.
J'ai vu que vous estimiez à l'UMIH que 3 saisonniers sur 4 pourraient trouver un emploi pendant la période estivale. Ça resterait malgré tout un bon score, étant donné le contexte. Ça serait le scénario le plus optimiste, là,
75% des salariés saisonniers ont un contrat de travail entre le 1er juillet et le 31 août. Ceux qui étaient pris normalement en avril-mai, on n'a pas eu de contrat, mais ce serait plutôt un bon score. Effectivement, ça veut dire aussi que on a une population française qui consomme dans nos établissements, se réapproprie leur lieu d'hôtellerie.
Ça y est, on commence à retourner dans les restaurants.
Ne vont pas à l'étranger, donc beaucoup ont pris la décision de ne pas aller à l'étranger. On voit bien aussi dans certains types de restauration, certains territoires, même un meilleur prix moyen, une meilleure consommation. Les gens prennent leur temps, ont envie de se faire plaisir. Donc tant mieux, c'est des signes aussi positifs. On ne peut pas être tout que négatif et voir les choses tout noir. Ouais. On voit bien que malgré tout, il y a une envie de consommation. Et c'est extrêmement important de maintenir cette envie de consommation auprès des Français.
On parlait des aides, revenons là-dessus, parce que c'est au cœur de notre sujet aussi. Pour ceux pour qui le travail saisonnier représente la principale activité, c'est pour eux là que c'est quand même vraiment compliqué. Est-ce qu'ils bénéficient donc toujours d'aides spécifiques? Et est-ce que vous allez réussir à faire en sorte qu'ils continuent à en bénéficier jusqu'à ce que la situation s'améliore?
On a des salariés saisonniers qui font les deux saisons, été, hiver. On a effectivement les dispositifs d'assurance chômage qui les protègent aujourd'hui. Mais il faut faire aussi attention à ceux qui vont arriver en fin de droit. Mmh. Il y a l'activité partielle qui est extrêmement fondamentale et qui doit effectivement, qui est aujourd'hui couplée avec l'activité partielle longue durée. Il faudra probablement mettre en place des dispositifs de formation pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais il faut surtout, on avait obtenu l'extension 30 septembre, on a obtenu maintenant 31 décembre. Il faut probablement encore l'étendre pour protéger 5 millions d'actifs. Le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est quand même pas un petit secteur, c'est un des 3 secteurs les plus importants. Sauf que nous avons besoin de clients et aujourd'hui, les clients reviendront à un moment ou à un autre. Mais il faut passer cette période-là et ça doit faire impérativement partie du plan de relance. L'emploi, sauvegarder l'entreprise, ça c'est vraiment fondamental.
On n'a pas encore la liste des secrétaires d'État. Est-ce que vous réclamez toujours un secrétaire d'État au tourisme? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de savoir si aujourd'hui, oui ou non, vous allez avoir votre secrétaire d'État? Parce que le tourisme, et vous le disiez dans des précédentes interviews, c'est quand même 8% du PIB, 17% si on ajoute la restauration.
On a d'abord un ministre des TPE des PME, donc ça déjà c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Là-dessus, vous êtes basé plutôt satisfait.
Ouais. Oui, c'est très bien. En plus, c'est quelqu'un qui vient de notre monde, le monde de l'entreprise.
C'est donc, lui qui va s'occuper de vous là pour l'instant.
Pour le moment à Bercy. Après, s'il y a un secrétaire d'État au tourisme, je pense qu'on en a besoin parce qu'avec l'ancien secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoine, nous avons eu d'excellentes relations. Et c'est vrai qu'on a fait un travail extrêmement important, notamment dans la promotion de la France à l'étranger. Etc. Et donc, on en a besoin. Vous l'avez dit, le tourisme, c'est pas que l'hôtellerie-restauration, c'est toutes les activités. Et donc, on mérite, me semble-t-il, d'avoir un secrétaire d'État au tourisme. On aurait pu mériter un ministère, mais ceci dit, si nous avons un secrétaire d'État, c'est bien aussi qu'on ait une forme de continuité dans tout le travail qui est fait depuis des années et des mois, et notamment là, pendant cette période de crise.
Un dernier mot sur l'importance de l'aspect géographique, parce qu'on a parlé de la géographie du virus qui s'est propagé en France, avec des clusters, etc. Dans l'économie, il y a des endroits sur le plan économique, des zones géographiques plus touchées que d'autres. La région Île-de-France, beaucoup de services, beaucoup de sièges d'entreprises, des régions d'industrie. Toulouse, avec l'aéronautique, on a les grandes villes, Bordeaux, etc. Est-ce qu'il va aussi falloir s'occuper de gérer ces questions-là de manière plus locale en fonction donc de la géographie?
On a une activité très croisée. On dépend beaucoup, on parle beaucoup de tourisme et de loisirs, mais je prends Toulouse, que c'est là où j'ai aussi mes affaires. On est très dépendant de deux industries, qui sont l'industrie aéronautique, aussi l'industrie automobile, mais toute l'industrie événementielle, les congrès, les parcs d'exposition, tout ça c'est à l'arrêt. Donc, oui, probablement, il devra y avoir des focus sur des grandes villes, le tourisme d'affaires, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Probablement qu'il faudra aussi s'appuyer sur les collectivités territoriales, exécutifs régionaux, avec l'État. Et tout ça, ça doit, je pense, un vrai travail de concertation. Et il faudra, oui, effectivement, en tout cas, si on veut maintenir Toulouse, c'est 70 000 emplois directs, l'industrie aéronautique. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, des groupes comme Airbus sont à l'arrêt. Et indirectement, Paris Cochet, directement, vous avez des hôtels, cafés, restaurants qui sont encore fermés parce qu'ils dépendent de cette activité-là. Donc oui, il faudra avoir un soutien massif et dans ce plan de relance. Et donc, il faudra mettre tous les moyens pour sauvegarder un maximum d'emplois. Ce sont des emplois croisés et on ne peut pas, comme ça, de tout perdre du jour au lendemain.
On suivra tout ça tout au long de l'été et puis à la rentrée, bien sûr, parce qu'il y aura des rendez-vous très importants sur ces dossiers-là. Merci beaucoup, Thierry
Merci
Grégoire, d'avoir été avec nous, président de l'UMIH saisonnier. Restez avec nous. Dans un instant, nous retrouvons Didier Kling. On va continuer à parler emploi. C'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
Bonjour Didier Kling.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui représente 840 000 entreprises. Alors, selon l'INSEE, la perte d'activité a avoisiné les moins 34% pour la région capitale pendant la crise. Nous voilà maintenant au beau milieu de l'été. Comment se porte l'emploi francilien, Didier Kling?
L'emploi francilien se porte nécessairement mal quand une activité économique qu'on connaît bien. Il y a 100 000 emplois qui ont été détruits au cours du premier trimestre, donc ça continue. L'inquiétude, c'est que ça se prolonge et plus encore que ça s'accentue. Donc il est important qu'il y ait un plan de relance qui puisse intervenir. Les pouvoirs publics y travaillent et nous y participons. C'est notre rôle aussi, Chambre de commerce.
Sur tout ça, on a encore beaucoup d'incertitudes malgré tout. Toujours difficile de prévoir les semaines, les mois à venir.
Par définition, quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on est optimiste. On a des projets de développement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus difficile d'être optimiste qu'à d'autres périodes. Il y a tout de même des chiffres qui sont encourageants. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe en Chine aujourd'hui. La Chine qui, en gros, deux mois d'avance par rapport à nous.
Absolument.
Dans la pandémie, ensuite dans la crise économique et la reprise.
Et bien sûr.
La Chine vient d'annoncer, sur le mois de juin, ils sont à plus 2% d'activité économique par rapport au mois de juin de l'année précédente.
Il y a un rattrapage.
Pour nous, ce serait très très bien. Pour les Chinois, généralement, ils sont plutôt à une économie en croissance de l'ordre de 6 à 7%. Mais plus 2, déjà, c'est pas mal. Donc, ça nous permet de penser qu'on va avoir, assez logiquement, une reprise, une croissance, qui n'obtiendra pas le même chiffre, mais en tout cas, qui va effacer une partie de la perte.
C'est vrai que quand on a regardé la Chine, je reste là-dessus quelques secondes, et il s'est passé, en fait, ce qui s'est passé en Europe, en France, c'est ce qui s'est passé en Chine dans les semaines, les mois qui ont précédé.
Alors la question, c'est pourquoi est-ce que la Chine est seulement à plus 2 et pas à 6 ou 7, qui est le taux de croissance normal? Et donc ça nous donne des enseignements. Pourquoi? Tout simplement parce que le commerce extérieur n'a pas repris son rythme rapide. C'est très fort pour la Chine, c'est fort aussi pour nous. Donc aujourd'hui, on a des points de vigilance qui sont d'une part le commerce extérieur, qui n'a pas retrouvé son niveau normal, et d'autre part, des secteurs d'activité qui, eux, sont très pénalisés. Évidemment, c'est le tourisme. Vous évoquez les chiffres. Le tourisme, c'est 10% de l'activité en Île-de-France, et puis le transport, notamment le transport aérien, mais pas uniquement.
Alors,
ce sont les deux secteurs qui sont les plus difficiles aujourd'hui.
Vous nous donniez ce chiffre des 2% sur la Chine. Je vais vous donner un autre chiffre, moi, qui date d'aujourd'hui. C'est l'Agence de la Sécurité Sociale, l'ACOS, qui dévoile donc des chiffres historiques avec une baisse record des embauches de plus d'un mois au deuxième trimestre sur l'ensemble de la France. Moins 40,1%. Un petit peu plus dans le détail, c'était moins 72% au mois d'avril, moins 9% au mois de juin. Donc on est passé comme on a rattrapé entre avril et juin. Ça témoigne bien de la violence que la crise a eue sur l'emploi, tout ça.
Donc, violence, effectivement, de la crise. En même temps, ce qu'on espère, c'est un rebond très vif. Pourquoi c'est important, l'emploi? Vous en parlez à juste raison. Vont arriver sur le marché, au mois de septembre, 700 000 jeunes. Donc dans les points de vigilance actuels, il y en a deux points qui sont majeurs. C'est d'abord la relance, bien sûr, pour les entreprises, avec les points de vigilance que j'évoquais tout à l'heure, le commerce extérieur, le tourisme, l'événementiel, qui est aussi très handicapé, évidemment, et puis le transport, la mobilité. Et le deuxième point de vigilance extrême, c'est les 700 000 jeunes. Il faut absolument leur trouver un emploi ou un dispositif d'insertion dans la société.
Et c'est pour ça que le gouvernement, justement, en ce moment, la fin de semaine, est en train de travailler sur un plan qui va être concrétisé, si tout va bien, demain, en tout cas, dans la fin de la semaine. Malgré tout, avec ces chiffres, ils sont mauvais, bien sûr. Ils sont moins mauvais en juin qu'en avril. Est-ce que c'est matière à vous rassurer?
Oui, c'est matière à nous rassurer. Pour autant, qu'on n'ait pas une nouvelle inquiétude sanitaire à l'automne.
La deuxième vague, c'est ça?
La deuxième vague, ou au début de l'année 2021. Je voyais ce matin les chiffres du secteur événementiel. L'événementiel, salon, congrès, etc. Bon, c'est un secteur important, notamment en Île-de-France, mais même sur la France entière. En Île-de-France, les retombées, c'est 5 milliards d'euros par an. l'équivalent des Jeux Olympiques tous les ans. Et c'est 22 milliards de contrats qui sont signés chaque année. Mais aujourd'hui, on considère que compte tenu de l'arrêt d'activité intervenu le 15 mars, le 1er septembre, on n'est pas certain que ça reprenne normalement. En tout cas, on voit bien là les réservations, il y a moins de monde que prévu. Donc ça veut dire que pratiquement, on fera sur l'année 2020 dans ce secteur d'activité un quart d'une année normale. On espère que ce secteur retrouvera une demi-année en 2021. Et donc la vraie reprise, c'est en 2022. Il faut tenir jusque-là.
Donc justement, les secteurs les plus vulnérables, si on parle bien sûr de Paris et puis de l'Île-de-France, l'événementiel,
le tourisme, les transports.
Les transports.
L'aéroport de Paris, vous voyez bien aujourd'hui, Roissy, il y a peu de monde encore. Ça remonte, mais il y a très peu de monde.
Ouais, sur l'événementiel, d'ailleurs, un autre chiffre que communique la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, entre mars et juillet, au moins 119 salons ont été annulés sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. Didier Kling, la reprise, vous l'attendez plutôt pour le mois de septembre, hein, c'est ça ? Vous tablez sur, enfin en tout cas, vous avez confiance en regardant les chantiers du Grand Paris et les JO 2024. Pour vous, c'est ça, là, les deux chantiers qui vont faire que l'activité va repartir. Alors,
le Grand Paris et le Grand Paris 2024, c'est un chantier superbe. Ça va au-delà, d'ailleurs, le Grand Paris, c'est jusqu'en 2030. Mais on a cet objectif 2024, il faut réussir ce pari, il faut que les infrastructures soient livrées. C'est sûr que le fait que pendant 3 mois environ, les travaux n'aient pas pu être engagés, c'est-à-dire qu'on a pris du retard, c'est difficile de rattraper. Et aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent. C'est un, comment on fait pour rattraper ces 3 mois ? Les entreprises de travaux publics sont à la manœuvre, mais c'est compliqué. Et puis le deuxième sujet, c'est que nécessairement, si on veut respecter les conditions sanitaires, et tout le monde les respecte, je crois, avec beaucoup de rigueur, ça veut dire que c'est plus difficile de travailler. Il faut maintenir une certaine distance. Je voyais un entrepreneur qui me disait, pour emmener des ouvriers sur le chantier, j'en mets 6 ou 7 dans une camionnette pour aller sur place. Aujourd'hui, je n'en mets plus qu'un seul par rangée. Donc c'est 3 par camionnette. Il faut 3 camionnettes, j'avais qu'une. Donc il y a des surcoûts, il y a des dispositifs qui sont plus longs, et donc ça complique d'autant plus la tâche. Mais on sera présent au rendez-vous de
2024. Mais une reprise dès le mois de septembre, Didier Kling, vous m'avez l'air quand même assez optimiste.
Parce que par définition, on est optimiste.
Oui, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Même si la construction, on se dit, ça va pouvoir repartir. Mois de septembre, c'est quand même très ambitieux. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. On ne sait pas s'il y aura toujours des aides. On ne sait pas grand-chose.
C'est vrai. Mais il y a de l'appétit. Il y a de l'appétit de la part des chefs d'entreprise qui ont envie de reprendre leur activité et qui en ont besoin. Et il y a de l'appétit de la part des salariés qui ont envie de revenir normalement sur le lieu de travail. Et il y a de l'appétit de la part du consommateur. Il a envie de sortir un peu de cette période de confinement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on travaille sur le fait que la reprise va être une reprise qui soit cohérente, qui soit raisonnée, qui soit calme. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des préoccupations, par exemple, sur le développement durable. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une reprise aussi forte qu'avant ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait cette course à la croissance ? Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille pour imaginer une croissance économique qui soit une croissance heureuse, qui ne soit pas sujette à des contraintes.
Alors, dans tout ça, Didier Kling, président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Est-ce que les investissements publics vont pouvoir suivre ? Parce que là, on parle de grands chantiers, le Grand Paris, les JO 2024, où l'État, bien sûr, met beaucoup d'argent. Est-ce que ces projets vont être réalisés tels qu'ils étaient censés... tels qu'ils ont été imaginés.
L'État a mis beaucoup d'argent pour traverser la crise sanitaire, et c'était très bien, c'était très efficace, je pense. Je pense qu'il s'apprête à mettre beaucoup d'argent aussi pour la relance. Les investissements, dès lors que ce sont de bons investissements, des investissements rentables, oui, il faut mettre beaucoup d'argent, on s'inquiète de l'endettement, c'est pas le sujet. C'est un sujet qu'on verra peut-être après. C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on retrouve aussi rapidement que possible un niveau de développement économique satisfaisant. Je n'oublie pas que derrière le développement économique, on parle du développement économique, c'est aussi une cohésion sociale derrière, c'est aussi des emplois, c'est aussi éviter qu'il y ait des chômeurs, qu'il y ait des difficultés dans les familles qui mettraient en difficulté la cohésion sociale dont on a besoin. Donc il y a ce vrai danger à l'automne, si on ne réussit pas tous ensemble ce pari, oui, il y a des perturbations d'ordre social qui peuvent naître.
Ça veut dire que maintenant aussi qu'on est un petit peu au courant et qu'on est préparé, mieux préparé en tout cas que quand ça nous est tombé sur le coin de la figure au mois de mars, on peut un petit peu mieux anticiper, faire des hypothèses sur, faire des scénarios différents et se préparer.
On a globalement une grande incertitude, qu'est-ce qui va se passer ? On voit bien quand je vois hier sur les bords de Seine, effectivement une population très, très rapprochée qui ne respecte pas les règles sanitaires. nécessaire. Oui, on est fondamentalement inquiet de ça. Mais globalement, on a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait mieux comment réagir et comment traiter les difficultés, notamment des clusters qui peuvent être tout à fait identifiés et cloisonnés, si je puis dire.
Bon, en tout cas, vous attendez une reprise, vous espérez une reprise, selon une étude que vous avez menée d'ailleurs tout récemment. Ce sont plus de 6 entreprises franciliennes sur 10 qui ont connu un arrêt total de leur activité pendant la crise, jusqu'à 9 sur 10 dans le tourisme et la construction. Maintenant, il y a urgence.
Il y a urgence. On voit bien, par exemple, dans l'activité, les cafés, les bars, les restaurants, il y a 20 à 30% d'entre eux qui disent « on ne sait pas certain qu'on pourra reprendre normalement ». Donc, il faut réunir toutes les conditions pour leur permettre de survivre, de vivre, de se développer et d'accueillir des clients qui ne demandent que cela.
Les entreprises, elles restent dépendantes de la consommation, bien sûr, notamment dans les sujets dont on vient de parler, les secteurs dont on vient de parler, la restauration, le tourisme. Ça veut dire que vous pensez donc que la consommation va retrouver des niveaux standards ou quasi standards dès la rentrée?
Il faut qu'elle retrouve assez rapidement. On voit les projections qui, d'ailleurs assez régulièrement, les projections macroéconomiques sont en progrès en disant finalement la reprise est plus rapide que ce qu'on craignait. Et donc, on ne va pas retrouver immédiatement le niveau d'avant la crise. Il va falloir une bonne année sans doute pour y arriver. Mais en tout cas, il faut qu'on rassemble toutes les briques et qu'on soit prêt à traverser éventuellement une nouvelle vague épidémique qui viendrait nous chagriner.
Vous dialoguez avec le gouvernement aujourd'hui, avec les pouvoirs publics. Qui est votre interlocuteur pour avancer sur ces sujets?
On dialogue en permanence avec les pouvoirs publics à plusieurs niveaux. Bien sûr, au niveau de Bercy, du ministre de l'Économie et des Finances, de ses secrétaires d'État en charge de ces sujets. On dialogue avec les représentants de l'État, le préfet de région, par exemple, qu'on voit au moins une fois par semaine. Pour remonter l'information et voir quelles sont celles qu'on doit diffuser. On travaille en étroite corrélation aussi avec les collectivités locales, au premier rang desquelles, bien sûr, le Conseil régional d'Île-de-France.
Pas de stress majeur du côté des 840 000 entreprises que vous représentez. Vous arrivez à communiquer avec elles et puis à les faire tenir, finalement.
Donc, on communique avec elles. On a mis en place une cellule d'urgence, même un centre d'appel, qui a atteint jusqu'à 100 personnes disponibles, qui passaient en moyenne 14 minutes avec chaque entrepreneur. Pour l'écouter d'abord, ils ont besoin de parler, besoin de s'exprimer. Ensuite, essayer de l'aiguiller, quelles sont les bonnes solutions pour lui. Et derrière, on assure un suivi. Donc c'est ce dispositif qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire, c'est ce dispositif qui va se prolonger pour les accompagner dans la relance.
Très clair, vous parliez de l'événementiel. Bertrand Biard, le président de l'association L'Événement, qui a beaucoup de choses à nous dire, sera notre invité demain sur BFM Business. Merci beaucoup Didier Kling.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Île-de-France. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'actualité économique. À tout de suite.